musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêvais d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bruno Micro. Je suis ravie de vous retrouver sur RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure. Une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité liés ou non à la programmation du Centre culturel Moucronois. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, entre 13h et 13h30, sur RQC 95 FM. Dans la nuit du 4 au 5 juin, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles adoptait majorité contre opposition le décret programme de réforme de l'enseignement. Le texte a été adopté malgré une forte mobilisation syndicale et des critiques portant notamment sur l'augmentation de la charge de travail, les économies budgétaires et la méthode employée par le gouvernement. Quelles seront les conséquences pour les enseignants, les élèves, les écoles, les étudiants? Ce sont les questions que nous avons posées à Stéphane Dilis, permanent régional de la CSC enseignement. Il est l'invité de Y a pas péril en la demi-heure. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors malgré le vent de colère et le mot est faible, les préavis de grève, les manifs, la ministre de l'Éducation et la ministre présidente ont persisté, si je puis dire, dans le déni et ont passé le décret programme en force plutôt que d'ouvrir un véritable espace de concertation. Quelle a été votre première réaction lorsque le décret programme a été adopté dans cette nuit du 4 au 5 juin?
La première réaction, elle date de plus de 18 mois, puisqu'on voit bien les démarches entreprises par ce gouvernement qui veut passer en force, et vous l'avez bien répété. Donc évidemment, la colère est présente dans le milieu de l'enseignement, et depuis le début. Alors il y a le fond et la forme, vous citez concertation, mais qu'est-ce qu'une concertation pour les politiques en place en ce moment? On se le demande. Sur le fond, il faut reprendre l'histoire sur 10 ans. On avait une réforme de l'enseignement pour laquelle on s'est battu il y a 10 ans. C'était le pacte pour un enseignement d'excellence. L'école était en rénovation. Tous les acteurs à ce moment-là étaient autour de la table. Ce ne fut pas facile. Et on arrivait ici en 7e année au terme de la P6, la 6e primaire. Et on entrait dans le secondaire en S1, S2, S3. Et puis tout d'un coup, le gouvernement arrive avec ses seuls objectifs d'économie budgétaire. Alors, on ne nie pas que la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans une situation critique au niveau de ses finances. Oui. Mais la forme et le fond sont franchement à revoir. Lorsqu'on a signé un contrat il y a 10 ans, quelles que soient les politiques en place, et certains y étaient, et à un moment donné, on est franchement en colère, mais profondément déçu, profondément, quelque part, on saigne, l'enseignant dans sa classe saigne. Et donc, à un moment donné, c'est une volonté de la société de faire un virage à cet enseignement, tout simplement parce qu'il n'y a plus de moyens. Mais il faut encore aller chercher au bon endroit et pas dépenser inutilement peut-être ailleurs.
On parle de passage en force donc de ce décret. Est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi c'était un passage en force à nos auditeurs?
Je ne suis pas député ni de la majorité ni du Parlement. Le passage en force était une volonté, et vous l'entendez, quel que soit le niveau de pouvoir. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous nulle part. Alors, est-ce que c'est la volonté budgétaire? Je le crois fermement, personnellement, mais on travaille avec l'humain, on travaille avec des enfants, on travaille avec des familles, on travaille avec toute une série d'élèves en formation pour la société de demain, et on verra les conséquences de ces réformes budgétaires aujourd'hui, mais on ne les verra pas au 1er juillet prochain, au 1er janvier prochain. Nous, on les verra dans 10 ans. Et là, il sera trop tard, malheureusement. Et ça, le politique doit le comprendre. Alors, un petit point positif qu'on peut observer ici pour l'instant, ce sont les associations de parents qui nous suivent, les associations d'étudiants qui nous suivent. Sur les récents sondages, mais on peut remarquer que 80% soutiennent cette colère du monde de l'enseignement, parce qu'on ne défend pas son beefsteak, on défend l'enfant qui est au centre de nos préoccupations. Nous avons toujours été bienveillants auprès des élèves, et on le reste encore en ce moment, qui est une période d'examen, même si la colère gronde, même si la colère vient de la base, à un moment donné, on est là, on doit exprimer cette colère. Et pourtant, pas mal d'enseignants se retrouvent à côté de leurs élèves. Demain, on commence les séquences d'examen des CEAD ou des CEB. Eh bien, les enseignants seront présents, en tout cas au niveau régional, en Wallonie-Picarde. Donc voilà, la colère, elle est là, la colère reste pour le moment, mais nous restons dans la formation aux côtés de nos élèves pour leur formation, pour leur bien-être. Et là, je pense que les parents l'ont compris, les étudiants également.
On reviendra sur cette mobilisation générale. D'après vous, pour vous, vous avez le sentiment que le gouvernement a franchi une ligne rouge en votant ce décret ?
Mais il n'a pas que en votant la ligne rouge, évidemment, l'enseignement enseigne, je l'ai déjà exprimé, mais vous savez, les conditions dans lesquelles il a voté ce décret, il s'est assis un petit peu sur le règlement d'ordre intérieur du Parlement. Alors, je ne suis pas juriste.
Oui, on peut revenir peut-être là-dessus.
Je ne veux pas juger, mais enfin, voilà, à un moment donné, la force, en force, la force était présente au sein de la majorité.
Un délai aurait dû être respecté entre le vote et enfin, l'adoption de ce décret.
Mais le délai, c'est dans les concertations, dans les rencontres. Alors oui, on a rencontré Mme Glatini depuis des mois, une fois par mois, comme le sollicitent les accords préalables. Mais c'est quoi une rencontre ? C'est s'asseoir et écouter Mme Glatini ? C'est poser des questions auxquelles nous n'avons jamais de réponse. Est-ce ça vraiment concerté, sommes-nous de concert vers un objectif commun ? Nous ne le croyons pas. Leur objectif à la majorité, c'est faire des économies. Je ne les nie pas, le besoin sur ces économies. Mais attendez, il y a les enfants qui sont présents, il y a les élèves qui sont à nos côtés, il y a les futurs adultes que nous sommes en train de former. Et à un moment donné, on a aussi une responsabilité. On veut former des citoyens. Mais quand le politique montre l'exemple de s'asseoir sur certaines réglementations, comment à l'école peut-on former encore des citoyens de demain ?
Quelles sont justement les mesures, on va dire entre guillemets, les plus problématiques de ce décret ?
Eh bien, elles sont nombreuses à un moment donné, mais il faut reconnaître que cette dévalorisation, cette subvention limitée pour le fondamental, la réduction des moyens financiers est une catastrophe pour nos petites têtes blondes. La S1, S2, S3, donc les trois années du tronc commun qui vont être revues sous un angle tout à fait non négocié et imposé par cette majorité, ce n'est pas admissible non plus. Alors, évidemment, pour l'opinion publique, on revient toujours sur les 2 heures supplémentaires pour nos collègues du DS. On l'entend, mais voyons ça d'un autre angle, s'il vous plaît. Vous êtes face à votre employeur et votre employeur vous dit, à partir de septembre prochain, vous travaillez 10% de plus à l'horaire. Donc, si vous faites un horaire de 38 heures, on va dire que vous faites 3,8 heures en plus.
Et tout ça pour le même salaire.
Gratuitement, non, mais pour le même salaire, donc pas de revalorisation. Moi, je me demande si un ouvrier, un salarié ou un autre fonctionnaire arriverait à le digérer.
C'est une preuve d'irrespect, en fait, également.
C'est l'irrespect du travail de nos collègues du degré supérieur qui forment quand même vers les études universitaires ou tout au moins de hautes écoles, donc nos futurs adultes de demain. Et donc, voilà, on peut en discuter longuement, mais cette forme d'augmenter la charge de travail n'est pas absolument acceptable sous cette forme-là, d'une part. Et puis, il y a le refus aussi du gouvernement en place qui ne veulent pas objectiver la charge de travail des enseignants. Quelle est la charge d'un enseignant ? Parce qu'on parle toujours du nombre d'heures face classe.
Oui, bien sûr.
Mais on n'arrive pas. On prend pas le journal le matin dans le kiosque du coin pour les donner cours. À un moment donné, il y a des préparations et des réflexions, des mises en situation, il y a toute une série de choses auxquelles on doit penser. On réfléchit aux réponses qui pourraient nous arriver des élèves, leur incompréhension. On doit être prêt à toute éventualité, quelle que soit la matière, pour pouvoir répondre. On ne va pas répondre à notre élève, on ne connaît pas la réponse, reviens demain. Non, à un moment donné, un enseignant qui prépare sa leçon doit pouvoir répondre à 95% des questions qui se présentent, donc c'est pas bêtement une feuille de papier qu'on télécharge sur internet et qu'on lit le lendemain devant nos têtes blondes. À un moment donné, il y a un travail qui est construit, et puis encore, quand le cours est donné, on revient chez soi avec un travail de correction, d'évaluation, plus toute la charge administrative qui nous a été imposée et qu'on a quelque part accepté dans le cadre du pacte d'un enseignement d'excellence. Donc il y a tout le travail caché à un moment donné. Dites ça à un avocat qui vient plaider et qui n'a pas préparé son dossier. Enfin, à un moment donné, tout est relatif et on focalise sur un volume de prestations devant élèves. Mais il y a largement autant en off.
Quelles seront les répercussions concrètes en fait, pour les élèves et la qualité justement de cet enseignement, des conditions d'apprentissage ?
Mais d'abord, on peut reprendre point par point quelques exemples, mais on ne va pas en faire une tarte à la crème. Hein, mais on propose par exemple en S1 deux heures de numérique, parce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, le numérique, j'en doute pas. Mais est-ce que les ministres se sont posé la question du matériel disponible dans les écoles au niveau du numérique ? À un moment donné, oui, il y a eu des financement de la région ou à un moment donné, mais vous savez que l'informatique est obsolète au bout de quelques années, ça c'est une chose. Alors on peut reprendre toute une série de choses, on peut reprendre par exemple l'idée d'aller en stage avec nos élèves du premier degré dans les étapes, enfin dans les usines. Mais comment voulez-vous libérer toute une série d'élèves en stage dans les usines? Il faut que les usines nous accueillent, il faut que les conditions de sécurité soient présentes pour le patron qui va nous accueillir. Et puis, c'est pendant les jours blancs de fin d'année scolaire. Toutes les écoles organisent leurs examens plus ou moins au même moment. On va sortir quoi ? Des milliers d'élèves pour deux périodes en fin juin. Est-ce que c'est réaliste, franchement ? Alors, on peut imaginer que cette majorité est proche des entreprises, mais a-t-elle posé la question aux entreprises s'ils étaient prêtes à accueillir des jeunes élèves de 13-14 ans au sein des usines ?
Oui.
Mais voilà, posons-nous la question. Ce sont beaucoup de faits d'annonces, de la com, où certains excellent en la matière dans cette majorité. Et donc, il ne faut pas être dupe, il faut réfléchir, il ne faut pas prendre tout comme argent comptant via les réseaux sociaux. Il y a une analyse, et l'enseignant, je pense, permet aux élèves de réfléchir sur des informations qui lui sont proposées. On analyse, on réfléchit, on critique, et puis voilà, on se fait sa propre opinion.
Ce décret risque aussi de rendre l'enseignement supérieur moins accessible aux familles modestes. On parle notamment d'une hausse du Minerval dans l'enseignement supérieur qui a suscité de virulentes critiques et c'est très justifié puisque ce Minerval standard passerait de 835 euros à 1194 euros. 58% des étudiants seraient concernés.
Mais oui, mais cette hausse de nouveau brutale. Vous savez que votre salaire est indexé modérément, je ne reviens pas sur d'autres réformes, mais ce n'est pas de l'indexation. Alors on nous affirme qu'on remet le barème très haut, mais de la maternelle jusqu'à à l'enseignement supérieur, on définance l'enseignement ou on va chercher l'argent là vraiment où paraît-il, il s'y trouve, mais c'est détériorer l'environnement, que ça soit du petit, de l'élève du maternel qui n'aura pas autant de subsides pour développer sa créativité, jusqu'à l'étudiant du supérieur qui, lui, devra trouver un moyen de financement pour pouvoir assurer ses études. Donc là, quelque part, on est toujours sur des chiffres. Vous posez la question à la majorité, ils arrivent avec des chiffres, mais quelque part, il y a l'humain derrière ces chiffres et donc ils doivent se débrouiller. Et les études, c'est aussi un ascenseur social, quelle que soit la famille dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez faire des études, mais il faut encore pouvoir les financer. Tout augmente de nos jours et à un moment donné, on est toujours sur le même laus et on n'a plus de sous, allons le chercher. Mais faut-il franchement aller le chercher dans les poches des personnes qui se battent déjà pour pouvoir suivre des cours, que ce soit des petits-enfants de maternelle qui vont arriver avec des boîtes à tartines vides, ou que ce soit des étudiants qui ont quand même réussi leur parcours jusqu'à 18 ans et qu'ils envisagent une belle formation pour avoir un développement professionnel qu'ils désirent par la suite et un épanouissement en tant qu'adultes et citoyens. Les questions sont posées, mais les réponses au gouvernement, c'est nous n'avons pas le choix. Mais si, il y a des choix, mais peut-être pas ceux-là.
Des impacts aussi, j'imagine, sur les sorties scolaires, les sorties culturelles qui...
Vous savez, vous m'avez posé la question précédemment, quel est l'impact au niveau de l'enseignement, mais est-ce que n'importe quel membre du personnel, qu'il soit dans l'enseignement ou dans une entreprise, s'il est plus aussi motivé qu'avant, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il y aura une certaine démotivation qui va influencer le travail. Il faut savoir que les sorties scolaires, tout ce qui est là en extra cursus, donc en dehors de la charge de travail, mais qui est repris quand même par le règlement de travail. On appelle ça le service à l'école et aux élèves. Donc ça rentre aussi dans le cadre. Quel est l'enseignant qui va se dévouer pour préparer une sortie scolaire? Parce que préparer une sortie scolaire, c'est pas donner un coup de fil à un autocariste en disant demain on part avec 50 élèves visiter je ne sais pas quel musée. Il y a un travail pédagogique, il y a un dossier à faire, etc. C'est de l'investissement à nouveau. C'est du travail caché que le commun des mortels ne voit pas.
Sûr, oui.
Cette démotivation est réelle dans le monde de l'enseignement. Et ça fait longtemps que, quelque part, l'enseignement est comme ça mis à mal par la société, quels que soient les acteurs de société, ont désinvesti depuis des années. Alors, il y a eu une réforme, et j'y reviens, mon pacte pour un enseignement d'excellence, où tous les acteurs étaient présents. Donc, on avait une ligne conductrice pendant 10 ans, et on nous la coupe au bout de 7 ans. Alors, je me révolte aussi par rapport aux 7 années passées. Et les 7 années passées sont nos acteurs du fondamental. Fondamental. Le mot dit ce qu'il veut dire. C'est le fondement de la formation. Et puis tout d'un coup, on arrive en secondaire, on coupe et on fait du semblant d'élitisme par la ministre, où on reparle du latin, où on reparle des exigences de fin de CEB, où on reparle un petit peu de tout. Mais tout ça est de la com, puisqu'à un moment donné, dans les décrets, on dit bien que c'est le conseil de classe qui reste le dernier à avoir le mot sur la, comment je veux dire, sur l'évaluation de l'élève. Donc, même si les évaluations externes sont décrétales, et ça, je le confirme, maintenant, un élève qui serait en échec, c'est quand même le conseil de classe, quel qu'il soit, qui va statuer.
Oui.
Donc, tout est dans la com. Et c'est là où il faut se poser, avoir une analyse franche, éclairée, et pas être dans le buzz des réseaux sociaux.
Vous avez plutôt, plus ou moins déjà répondu à cette question, mais ce décret risque-t-il d'affecter l'attractivité du métier d'enseignant ?
Alors là, je vais être clair. Jeter un œil un petit peu dans les écoles normales, jeter un œil un petit peu à tous les masters qui sortent de l'université, vont-ils se jeter à corps et à cri dans le monde de l'enseignement ? Je n'ai pas la réponse, je suis en fin de carrière personnellement, mais ce serait à refaire, je me poserai la question 35 ans avant. Et donc, voilà, vous allez voir quelque part, on a allongé la formation des enseignants à 4 ans. Et alors, la ministre affirme, il y a une revalorisation. Enfin, les ministres, qu'ils soient du MR ou des engagés, on a fait un geste, on a ajouté 5% au barème le plus bas. Mais 5% brut. Alors, est-ce que ça va attirer 5%? Évidemment que non. On nous affirme que c'est 2000 emplois passés à la trappe, 500 dans un premier degré de fin 2025, à la rentrée 2025 dans le qualifiant, et si on estime à 1300 ou 1400 équivalents temps plein. Tout ça est nié par les ministres sur les plateaux télé, mais à un moment donné, dans les décrets qui nous arrivent dans les circulaires, on nous parle des pertes d'emplois, on nous dit qu'on va geler les réaffectations. Mais, pour le peu que vous soyez attentif, en tant qu'auditeur ou téléspectateur, vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui ment, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de perte d'emploi, mais il y aura des problèmes d'emploi et on va geler les réaffectations. Alors à un moment donné, on travaille en équivalent temps plein, on parle de 1300, reprenons ce chiffre-là, mais ça fait combien ça? 5-6 000 personnes d'affectées. Personnellement, on commence à avoir l'impact à la rentrée prochaine. Je suis régulièrement en réunion avec des directeurs de la région qui sont dans l'incapacité de faire une rentrée scolaire. Alors la rentrée, elle va être chahutée. Elle va être chahutée parce qu'on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à organiser les cours, les horaires, les attributions de professeurs. On ne sait même pas où on pourra les affecter en fonction de leur diplôme, en fonction de leur titre. Donc on est dans un flou le plus complet.
Oui.
Et tout le monde le dit, les associations de parents s'en rendent compte, les fédérations de PO, quelles qu'elles soient, ils le disent, il n'y a pas que les syndicats à la manœuvre. Mais à côté des syndicats, vous avez aussi les collectifs citoyens qui s'expriment. Tout le monde s'exprime dans la colère. Et puis voilà, les faits, on ne va pas les reprendre, qu'ils soient d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Mais la colère est là. L'enseignement enseigne, il y a un ulcère énorme dans l'enseignement, mais c'est quand même nos jeunes qui sont en jeu. C'est l'humain, c'est l'adulte demain, ce sont les adultes qui vont aussi nous soigner demain. Et donc vous pouvez prendre n'importe quel secteur, à un moment donné on peut avoir peur aujourd'hui pour demain, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit encadrer les jeunes et les former correctement.
C'est vrai que la mobilisation des enseignants, mais pas que, comme vous disiez, hein, des parents, des élèves, est admirable. Comment expliquez-vous justement cette mobilisation et ces différentes actions, comme la révolution des craies par exemple?
Bien sûr, c'était quelque chose, c'était visuel.
Oui. Voilà. C'était fort et symbolique.
La craie est le symbole. Mm-hmm. Alors, je suis d'accord, c'est le symbole d'hier, puisque dans les écoles, on a du numérique.
Oui.
On travaille avec des tableaux interactifs, et donc la craie. Mais la craie, quelque part, s'efface. Elle ne détériore pas nécessairement l'espace public, mais elle permet d'écrire, de dégager l'humeur en nous, d'exprimer notre point de vue autrement que par des posts sur les réseaux sociaux ou des colères, etc. Et donc on nous a reproché de conquérir cet espace public qui est à tout le monde, mais c'est aussi pouvoir s'exprimer.
Bien sûr,
s'exprimer, ouais. De façon éphémère. Récemment, il y avait quand même pas mal de pluies qui ont nettoyé nos graffitis, si on peut les exprimer ainsi, à la craie, mais tout est dans un symbole. Je vais paraphraser quelqu'un proche de moi qui me dit, ben voilà, la craie s'efface, mais l'écrit reste, avec un petit jeu de mots en passant. Mmh. Mais donc voilà, et cette révolution des craies a quand même pu sensibiliser la société dans son ensemble.
Oui. Alors la CSC, les syndicats en général, donc, a toujours soutenu l'exercice du droit de manifester dans un cadre pacifique et démocratique, et ce quel que soit l'âge des manifestants. Comment réagissez-vous face aux images, aux témoignages faisant état de débordements, si, entre guillemets, un policier, lors de manifs à Bruxelles, notamment à la suite du vote du décret programme?
Alors nous le savions, enfin voilà, nous savions que ce jour-là allait être un jour noir, quel que soit l'enseignement. Ou nous savons aussi que lorsque, quel que soit le secteur qui manifeste sur Bruxelles, on est toujours accompagné de gens qui veulent en découdre avec la police, avec la force publique, etc. Mmh.
Et donc, qui n'ont pas forcément
évidemment,
à voir avec votre
évidemment, ouais, bah, les casseurs, comme on peut les appeler, on a vu des images qu'on ne peut pas admettre et qui n'ont pas été dans le chef des enseignants. Enfin, à un moment donné, comparer les manifestations d'enseignants d'autres secteurs, on arrive avec notre craie, notre bic rouge.
Bien sûr.
Donc, voilà, nos manifestations sont reconnues pacifiques, même si, voilà, il y a la colère qui doit s'exprimer. Et donc, c'est dommage d'avoir comme ça des casseurs qui arrivent pour en découdre. Et donc, les forces de l'ordre ont pris la responsabilité, mais je pense que quelque part, ils ont un peu débordé dans leur rôle. Tous les jours, il y a des manifestations en Bruxelles, et donc je ne voudrais pas non plus être policier sur Bruxelles, mais il y a quand même un respect lorsque des jeunes de moins de 18 ans sont sur Bruxelles et qui sont pris en chasse par certaines forces de l'ordre, peut-être à bout. Hein. Mm-hmm. Attendez, je ne suis pas là en train de critiquer individuellement la police, mais quelque part, voilà, il y a eu des débordements, ben, les enquêtes se poursuivent, le politique a pris ça en main. C'est malheureux que quelque part, la manifestation, notre colère a été entachée de ces images-là. Mais que voulez-vous, sans cette position du politique, on ne serait pas dans les rues. S'il y avait eu concertation depuis 18 mois, on serait toujours dans une concertation, une négociation vers une construction de quelque chose qui était peut-être difficile à avaler, mais sous une autre forme, sur un autre timing.
Quelles sont les alternatives que proposaient en fait les syndicats? On sait que, vous disiez tout à l'heure, hein, il faut des mesures impératives au niveau budget.
Mais on sait que, historiquement, la Fédération de Bruxelles est financée uniquement par le fédéral et qu'on est coincé à ce niveau-là. Mais on n'est pas non plus, en tant que syndicat, à aller rechercher, nous, des solutions. À un moment donné, c'est quelque part aussi le rôle des politiques à proposer.
Pas votre rôle. Ouais.
On ne va pas non plus, quelque part, prendre la place de personnes qui ont été élues démocratiquement, et ça on le reconnaît tout à fait. Je reviendrai, vous m'excuserez, sur quelque chose qui a été difficile il y a 10 ans, c'est que nous étions aussi beaucoup autour de la table lors du pacte par l'enseignement d'excellence. On n'était pas tous d'accord, il a fallu aussi combattre certaines idées, on est arrivé à un consensus, c'est propre à la Belgique paraît-il, et merci, mais il faut aussi savoir que dans d'autres niveaux de pouvoir, il y a des dépenses qui semblent exagérées, que ce soit au fédéral, que ce soit à la région. Mais franchement, la question ouverte que je me permets de poser, tant que faire se peut, c'est quel sera l'enseignement de demain ? Et puis la question posée à la société, c'est quel enseignement voulez-vous pour demain ? Et donc, à un moment donné, il y a une réflexion à porter. Alors, on nous dit, on va refinancer, mais on vous fait des énormes économies, et puis on vous lâche des pourcents sur des points ponctuels par rapport à tel ou tel décret. Mais c'est que dans la communication. Si vous mettez ça dans la balance, le refinancement est nul. Enfin, nul n'est pas un terme juste, mais il est vraiment très très minoritaire par rapport aux énormes économies. Alors refinancer comment ? Ben, c'est aux politiques à trouver certaines solutions.
C'est ça.
À un moment donné, il se pose bien la question sur les provinces, à un autre niveau de pouvoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement aussi pour pouvoir générer un financement en Fédération Unie de Bruxelles ?
Alors le mouvement, la mobilisation se poursuit, donc bien après le vote. Existe-t-il encore une possibilité de modifier ou d'amender certaines de ces mesures ?
Il faut savoir que les différents acteurs de l'enseignement ont déposé des recours.
Oui.
À différents niveaux, et je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est propre à chaque organisation, que ce soit fédération de PO, fédération de parents, syndicats et autres. À un moment donné, on verra qu'est-ce qu'il va redevenir. Et nous sommes toujours là, la colère gronde. D'abord, l'étudiant, on est bienveillant aux côtés de nos élèves, et puis on continuera le combat, quel qu'il soit. Mais il y a des choses qui vont... qu'on ne peut pas admettre. Quand nous verrons nos jeunes collègues devant la porte des écoles ayant perdu une partie de leur attribution, qu'ils devront faire plusieurs écoles ou qu'ils ne retrouveront même pas un horaire complet, ou les étudiants qui doivent absolument faire des travaux, enfin des heures supplémentaires en tant que sur un statut d'étudiant, et voilà. Et puis on se retrouve sur un exemple que Marlène Ska avait donné en son temps à la sortie d'une grande surface, où vous avez le pensionné qui travaille en flexi-job à caisse 1, vous avez le salarié à qui on ne sait pas donner un temps plein et qui fait ce qu'il peut, et puis vous avez l'étudiant en caisse 3 qui travaille à un moment donné pour pouvoir financer ses études. Et alors, on en est où là ? Il y en a deux qui complètent un revenu, l'autre n'a que son revenu.
Quel message souhaitez-vous adresser aux enseignants qui se sentent découragés par les réformes actuelles ?
Il ne faut absolument pas lâcher. Les enseignants, certes, tout le monde en a un coup de mou à un moment donné. Mais la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. À un moment donné, on doit être unis. Alors unis de nouveau pour l'enseignement de demain, pour nos élèves. Il faut continuer à serrer les coudes. On peut pas tolérer ça. On peut pas tolérer un définancement de l'enseignement. À un moment donné, il y a des besoins. Les besoins sont réels, sont criants. Et demain, plus qu'hier.
Et c'est l'affaire de tous.
C'est l'affaire de tous, quel que soit le niveau du maternel au supérieur. À un moment donné, nous sommes tous concernés. On sait depuis le début que le combat sera très long. C'est un marathon contre ce gouvernement. Le marathon va durer jusqu'aux prochaines élections. Mais c'est sûr que la rentrée, elle sera chahutée. C'est inévitable.
Un dernier mot, peut-être, un dernier message à passer, soit à la ministre, soit aux auditeurs, soit aux enseignants.
Alors la ministre est sourde depuis le début, ainsi que la ministre-présidente. Oui. Donc voilà, c'est plutôt aux auditeurs, aux parents, aux grands-parents, aux oncles et tantes, aux étudiants qui sont ici à l'écoute pour leur avenir. Il faut garder confiance. La confiance nous porte. L'union... solidarise un petit peu notre action. Et donc voilà, à un moment donné, c'est en serrant les coudes qu'on avance, quelle que soit la difficulté qu'on affronte. Mais s'il vous plaît, arrêtez de croire en cette communication. Renseignez-vous, analysez, et soyez le plus objectif possible par rapport à certaines situations. Et aux enseignants qui sont en action, qui ont été en action, ben, on va se ressourcer. Et puis on rentrera renforcé, ressourcé, combatif à la rentrée, toujours bienveillants auprès de nos élèves, puisque c'est l'essence même de l'enseignement. Mais le combat continue jusqu'au terme de cette législature pour le bien des élèves, enfin des enfants, et surtout pour le bien de notre société de demain. Parce que, je me répète, mais ce qu'on applique aujourd'hui, c'est dans 10 ans qu'on en verra les conséquences.
Mmh. Merci Stéphane Délis, permanent régional de la CSC Enseignement, d'avoir été l'invité de Il n'y a pas péril en la demi-heure. Voilà, Il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous en septembre. Et oui, après une trêve estivale, le 18 septembre, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC et celui du Centre culturel moucronois. www.centrecultureldemoucron.be. Bel été et à bientôt pour un nouvel épisode. And I'm feeling good.